deuxième temps de notre série consacrée au rapport de la musique avec la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, hier avec l'historienne Karine Lebaille et son livre « La musique au pas », aujourd'hui le documentaire de ce matin nous plonge dans le premier conflit mondial. C'était exactement il y a 100 ans, en juin 1916, en pleine guerre, on organisait à Paris le premier festival de musique française pendant lequel les grands noms de cette musique rendaient hommage à ceux qui étaient mobilisés ou déjà morts au front. Ces musiciens avaient une ambition patriotique qui remontait loin à la querelle entre musique française et musique allemande après la guerre de 1870. 16 juin 1916, premier festival de musique française, l'Union sacrée à l'affiche, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et de Véronique Samuilov, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, avec des musiques de Debussy, de Ravel et de Saint-Saëns et les analyses de Charlotte Segond Genovesi, de Cécile Quesnay, de Didier Francfort et de Philippe Gimplewicz.
Ah, cette affiche. Donc il y a des messieurs avec des messieurs chenus, avec des barbes en pointe, des colliers de barbe, des chevelures un peu folles. Certains sont en civil, d'autres sont mobilisés. Évidemment, il y a des noms, on s'arrête à aux noms les plus connus. Donc, Camille Saint-Saëns, déjà très vieux à l'époque, 80 ans et des poussières. Debussy, plus jeune, mais déjà malade. Enfin, ça ne se voit pas sur la photo. Il va mourir, je crois, en avril 1918. Gabriel Fauré, directeur du conservatoire, dans Liège. Moustache conquérant, déjà peut-être un peu sourd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on peut parler parmi les noms oubliés de l'histoire? Paul Ladmirault. Il y a les grands musiciens de l'époque. Beaucoup sont oubliés, cela dit. Enfin, il y en a beaucoup que je ne connais pas.
En voyant apparaître ces visages, je me dis d'abord qu'il y a de la très belle musique. La musique très importante de Debussy, Fauré. Et puis, je me dis que la musique a quand même, dans les constructions de culture politique, une place particulière. Je pense par exemple qu'une exposition de peinture française au même moment n'aurait peut-être pas la même vocation mobilisatrice, la même vocation à susciter de l'émotion. Et c'est peut-être pour ça que, dans une histoire culturelle de la guerre, la musique tient une place particulière.
C'est donc d'une affiche que nous partons, celle du premier festival de musique française du 16 juin 1916 à la salle Gaveau. 30 visages, 30 noms, ce sont aussi 30 personnalités, 30 démarches, 30 itinéraires artistiques ou intellectuels. Certaines de ces personnalités sont incontournables, d'autres sont oubliées, mais mériteraient sans doute une enquête approfondie. D'autres encore, enfin, ont joué un rôle plus ou moins important pendant ou après la Première Guerre mondiale. Il a fallu faire des choix, nous partirons donc de quelques-uns d'entre eux et tirerons les fils pour dévoiler les boucles, les nœuds et les liens qui se font entre les uns et les autres et tissent l'union sacrée des musiciens. 16 juin 1916, premier festival de musique française, l'union sacrée à l'affiche. Victor Massé de l'Épinay, Véronique Samuilov.
Il s'agit de l'affiche du premier festival de musique française, donc qui a eu lieu le 16 juin 1916. Il y a un peu plus d'un siècle.
Charlotte Segond Genovesi.
Elle est vraiment intéressante parce qu'elle ne ressemble à aucune autre affiche de concert donnée à Paris pendant la Grande Guerre. En fait, cette affiche met en scène visuellement l'organisation et les objectifs de ces festivals qui sont des concerts, et notamment grâce à l'usage des photographies. Alors on y voit par exemple des personnalités politiques qui se trouvent être les principaux interlocuteurs entre l'État et les artistes pendant la guerre. Par exemple, on voit Albert Dalimier, qui est le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, mais aussi Jean d'Estournel de Constant, qui s'occupe des théâtres subventionnés, mais il est aussi très proche des milieux musicaux parce qu'il est président de l'association de chant choral. On y voit aussi les compositeurs les plus célèbres de l'époque, comme Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré ou encore Claude Debussy. On note aussi la présence des personnalités les plus actives dans les milieux musicaux à l'époque, comme Alfred Cortot, qui vient tout juste d'être nommé chef de la propagande, mais aussi presque tous les directeurs et chefs d'orchestre des entreprises les plus actifs pendant la guerre, donc par exemple le chef d'orchestre de l'orchestre des concerts Colonne Lamoureux, le chef d'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Mais alors, ce qui pour moi est vraiment le plus touchant dans cette affiche, ce sont les 8 portraits, les 8 photographies en bas à droite des compositeurs qui ont été joués lors de ce festival. Ces compositeurs sont photographiés en tenue de poilu, donc avec la moustache, l'uniforme militaire, voire le casque du poilu. Et en fin de compte, placés côte à côte, tous ces portraits photographiques mettent en scène alors visuellement le projet d'union entre les musiciens soldats et les musiciens de l'arrière. Donc ce projet que veut réaliser Francis Cazadesus par le biais des festivals de musique française.
Le but initial de ces festivals est de manifester notre solidarité envers les compositeurs qui,
Cécile Quenet,
par suite de leurs obligations militaires, se trouvent séparés de la vie artistique depuis bientôt 2 ans. Ces festivals seront organisés sans aucune espèce de parti pris d'école, mais seulement en s'inspirant du seul culte de l'art musical français. Ils réaliseront l'union de tous les compositeurs, les plus illustres trouvant ainsi un moyen généreux de manifester leur sentiment d'amitié à leurs cadets. Donc, il y a l'idée que, et on le voit bien à travers l'affiche où sont tous les portraits des compositeurs impliqués, il y a l'idée que les aînés qui sont restés à l'arrière vont manifester leur solidarité à ceux qui se battent pour leur pays sur les lignes de front.
La musique pendant la guerre. Revue musicale mensuelle, prix 25 centimes. Numéro 1, 10 octobre 1915. Ce que nous voulons. À l'heure où tant des nôtres combattent, souffrent et meurent pour la patrie, nous ne voulons pas ouvrir les colonnes de cette revue à une littérature musicale de tendance et reprendre les petites discussions habituelles de chapelle à école et d'école à chapelle. Le drame épouvantable que nous vivons actuellement exige tant d'efforts de solidarité, tant de dévouement, tant de sacrifices continuels que nous ne pourrions songer à élever la voix en faveur de telle ou telle manière de penser, d'écrire ou d'entendre la musique. Ici, ce n'est qu'avec notre cœur que nous parlerons de musique. Par elle, nous essaierons d'établir un lien entre les artistes, compositeurs, interprètes ou exécutants qui sont aux armées et ceux qui ne peuvent y être à cause de leur âge et de leur mauvaise santé. Et aussi, pour nos admirables cantatrices et musiciennes, par cela même qu'elles sont femmes. Il faut, en un mot, que ceux qui se battent sachent bien que ceux de l'arrière ne les oublient pas. Telle sera l'œuvre de la musique pendant la guerre. Elle nous paraît belle et utile. Voulez-vous nous aider ?
Quand le conflit éclate, la majorité, enfin, toutes les revues musicales cessent de paraître. Quelques mois après le début du conflit, donc en novembre, les spectacles sont à nouveau autorisés à Paris. Et donc progressivement, la presse musicale renaît, du moins en partie, mais elle se réinvente. Et donc, dans le contexte de la guerre, de nombreux périodiques sont créés, ils sont souvent éphémères et conçus vraiment pour un temps limité. Et donc c'est vraiment le cas de la musique pendant la guerre. Dans cette revue, les lettres des musiciens poilus vont être souvent publiées, les projets à leur intention, comme la mise en œuvre des festivals, vont apparaître. Donc finalement, la revue La musique pendant la guerre va servir de support et de relais à la diffusion des festivals. Probablement le plus important et qui apparaît dans l'éditorial donc de cette revue, c'est l'idée d'union sacrée musicienne.
Dans les programmes de ce festival de musique française, on insiste beaucoup sur la diversité et sur le fait qu'on rapproche des gens qui sont d'écoles différentes.
Didier Francfort.
Et c'est peut-être une des caractéristiques de ce document de montrer que des gens comme Fauré et Dindy peuvent être rassemblés. Fauré, c'est le conservatoire de musique qu'il a dirigé. C'est cette idée d'une musique française qui correspond à la Troisième République, qu'il accepte. Dindy refuse la République. Dindy fonde en grande partie, avec Charles Borde et quelques autres, la Schola Cantorum, pour ne pas accepter le conservatoire en Montrand qui refuse cette logique de centralisation. Donc les voir rassemblés ici, ça a quelque chose qui montre une sorte d'union sacrée musicale.
Bon, plusieurs choses. Le conservatoire roupille, on peut dire à l'époque. Enfin, il y a des grands profs.
Philippe Gimprovitch.
Mais ça dort. Le grand foyer musical incandescent, c'est la Scola. Bizarrement, on peut dire que c'est l'école de la tradition, mais il y a une maison d'édition, il y a une revue, il y a des concerts, il y a une recherche. Voilà, ça pense et ça penche à droite, mais ça pense. Et alors, les compositeurs français sont regroupés en deux grandes associations. Donc la Société Nationale de Musique, donc celle qui est créée en 1870, qui regroupe l'ensemble des compositeurs jusqu'au moment où il y a une scission, notamment menée par Ravel, autour des questions de programmation et du caractère très très monomaniaque musique française de la Société Nationale de Musique. Quand on regarde les itinéraires des uns et des autres, on a beaucoup de surprises, cela dit, hein, parce que, vous voyez, on voit des gens qui appartiennent à une société qu'on va retrouver pétainiste 30 ans ou 40 ans plus tard. Enfin, c'est pas la droite et la gauche, hein. C'est pas non plus l'ouverture et la fermeture. C'est pas les crispés contre les cools. C'est pas du tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, du côté société SMI, Société Musicale Indépendante, il y a cette idée tout de même. Il y a tout de même une idée d'ouverture à des compositeurs venus d'ailleurs. Il y a cette idée que la musique ne peut pas être mise sous une cloche à fromage.
Alors, Monsieur Albert Dalimier, Monsieur Gann de l'Opéra Comique, Monsieur Paul Vidal, Monsieur A. Bachelet, chef d'orchestre, Monsieur Camille Saint-Saëns, président d'honneur.
Et voici La Française, composée en 1915 à la demande du journal Le Petit Parisien, dans lequel on peut lire alors « Cet hymne de la Grande Guerre a été composé par l'illustre maître Camille Saint-Saëns et par le grand poète Miguel Zamacoïs. La musique de Camille Saint-Saëns, animée d'un souffle ardent, est à la fois large, émouvante, simple et facile. C'est le chant national de demain. »
Saint-Saëns est vraiment un, si ce n'est le compositeur le plus reconnu de l'époque en France. C'est un compositeur très officiel. Il est de tous les jurys, de tous les comités. Il est aussi membre de l'Institut.
Charlotte Segond Genovese.
Et pendant la guerre, en fait, Camille Saint-Saëns devient vraiment l'archétype de la figure du patriote franco-français. Donc, dès 1914, dès les premières semaines du conflit, l'instinct patriote de Camille Saint-Saëns se réveille et il fait alors véritablement campagne contre la musique allemande, donc dans l'Écho de Paris, et il rédige une célèbre série d'articles intitulée Germanophilie. Et à partir de 1914, il va multiplier les compositions d'œuvres patriotiques comme Vive la France, Honneur à l'Amérique.
Dindy et Saint-Saëns se sont opposés notamment au sujet de la question de faire jouer de la musique étrangère à la Société Nationale de Musique, qui est une société de concert née au lendemain de la guerre franco-prussienne et qui avait donc pour objectif et mot d'ordre Ars Gallica, faire jouer de la musique des compositeurs français en réaction donc contre l'influence de la musique allemande qui a été très forte évidemment avec toute l'influence très importante de Wagner. Et donc, Dindy et Saint-Saëns sont évidemment sont opposés sur plusieurs points. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un consensus assez général pour interdire la musique allemande contemporaine, donc la musique de Strauss, par exemple, en France.
Il y a une différence entre ce qui est proclamé ce qui est dit, ce qui est de l'ordre du discours ou de la représentation.
Didier Francfort.
Et ce qui est la réalité de la pratique musicale. Par exemple, on dit on ne joue pas de musique des empires centraux, on ne joue pas de Wagner, on ne joue pas de Brahms, mais on joue du Léard. On joue la Veuve Joyeuse. Dans ce registre des musiques légères, l'interdit marche moins que dans les musiques savantes. Donc cette différence entre ce qui est proclamé et ce qui est pratiqué, c'est vraiment une piste intéressante en histoire culturelle où très souvent on s'en tient au stéréotype de ce qui est dit. Notre musique française n'a rien à voir avec la musique allemande. On le proclame, mais on s'inspire largement de Wagner. Des compositeurs qui ont eu des propos très anti-wagnériens, y compris Debussy, ont écouté du Wagner et dans telle ou telle œuvre, on peut entendre quelque chose de chromatique qui évoque du Wagner, on peut entendre quelque chose qui est plus directement un emprunt, une citation, une parodie parfois, mais faire de la parodie, c'est quand même aussi s'inspirer. Donc si les Français, les compositeurs français, proclament cette détestation de Wagner, c'est pour s'ouvrir en quelque sorte un marché, hein, simplement, pour exister dans un paysage européen marqué par ce wagnérisme triomphant.
Non, mais les musiciens sont intéressants parce que justement, entre leur musique, bon, que ce soit Ravel ou Debussy, Debussy qui écrit les choses les plus excessives pendant la guerre, hein. Il écrit les soldats boches se reproduisent entre eux comme des rats. Dans le florilège des monstruosités, enfin, vous voyez, enfin, qu'on pourrait sortir, c'est le premier. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de haine absolue de. Il nous parlait de Kultur, mais ce sont vraiment des. C'est pas des hommes. Il y a ça, et puis il y a les commis voyageurs du monde entier qui ont perverti notre goût. Je crois que c'est très important, ces deux choses-là. Bon, quand on est debussiste, on met ça sous le tapis. On met ça sous le tapis, on dit il est malade, le pauvre. C'est vrai d'ailleurs, hein, parce que lui, il est envahi par un cancer à ce moment-là, au moment où il écrit ça. Donc il a le double truc, il a le pays qu'il aime qui est envahi, il y a son corps qui est bouffé par ses métastases. Mais par ailleurs, la musique qu'il écrit, c'est une musique digne, haute. Enfin, je veux dire, par là, il dit pas, on n'entend pas « Ah, bah les boches, ah, bah les... » On n'entend pas ça, quoi, dans sa musique. On entend la Grande Guerre à travers ça, mais vous voyez, d'une manière diffractée. À la fois, mais pour entendre, il faut entendre à la fois les mots et les notes.
Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Tout pris jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre. Pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, et laissez-les. Manger les enfants de France, les petits pêches, petite polonaise aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous.
Le Noël des enfants qui n'ont pas de maison, alors c'est une berceuse, ça pleure, ça chiale, mais c'est absolument pas pathétique. Enfin, je veux dire, la musique n'est pas pathétique. On entend du Debussy. C'est du Debussy simplifié, c'est du Debussy qui veut plaire à son public, qui est un public simple, un public d'infirmière, mais il reste lui-même. C'est pas de la musique, monumentale, patriotarde. Enfin, moi, ça le dit, j'aime bien la musique monumentale, patriote, hein, ça me fait rire.
Mais donnez la victoire aux enfants de France.
Le cas de Debussy est un cas absolument extraordinaire, passionnant. Chez Debussy, il y a véritablement un tournant Moi, j'aime pas les mots mornistes. Bon, il y a un tournant nationaliste. C'est le moment où, après avoir écrit Péléas, c'est 1902, il faut se débarrasser de l'autre, de l'ombre du, de l'ombre de Richard, l'ombre de Wagner. Il faut vraiment, c'est viscéral, quoi. Donc Wagner représente l'Allemand. C'est ni Beethoven ni Luther, hein. c'est vraiment l'Allemand vindicatif. Donc il se débarrasse de l'Allemand et il se débarrasse du musicien en même temps. Donc c'est ces années 1902-1903. À l'époque, nationalisme égale xénophobie, égale antisémitisme et en grande partie égale action française. Or Debussy, au moment de l'affaire Dreyfus, il est absolument pas anti-Dreyfusard. Sa femme est juive. Il en a rien. Bon, j'allais être vulgaire. Il en a rien à foutre du nationalisme doctrinal à la Barrès et à la Maurras. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui adhère à un nationalisme idéologique, à un corpus constitué. À son propos, on peut parler de nationalisme culturel, de nationalisme spirituel.
Debussy, lui aussi, est un grand patriote et c'est une figure aussi indépendante qui se retrouve ici vice-président du comité d'honneur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas dirigé d'institutions, etc., d'organisations. Donc, c'est une figure aussi indépendante. Et on a aussi des positions intéressantes et qui montrent qu'on a des véritables changements, vraiment retournements dans des itinéraires, comme par exemple chez Alfred Bruneau, qu'on voit aussi ici sur l'affiche, qui est aussi membre de la commission nommée par le comité d'honneur de ces festivals de musique. Donc Alfred Bruneau, lui, c'est un compositeur marqué à gauche qui a été un proche de Zola. Il a été très influencé par Zola, il a mis en musique grand nombre de ses textes. Et Alfred Bruneau, lui, il avait une relation amicale, par exemple, avec Richard Strauss avant 1914. Et puis, il avait une vision très internationaliste de l'art, des échanges artistiques. Mais il va totalement rompre cette amitié épistolaire avec Richard Strauss au nom de cette guerre culturelle, cette croisade culturelle contre l'Allemagne, parce qu'on est véritablement dans une guerre des intellectuels aussi, des musiciens, des compositeurs, face à l'ennemi allemand.
Nous écoutons un extrait d'un drame lyrique d'Émile Zola et Alfred Bruneau, L'Ouragan.
Monsieur Bachelet, Monsieur Gane, Monsieur Destournel de Constant, Monsieur Valentien, Monsieur Camille Saint-Saëns, Monsieur Tenrock se tient derrière Vincent Dindy. C'est formidable d'avoir des documents comme ça parce que certains ont leur prénom, d'autres non. Et en fait, ceux qui ont leur prénom sont ceux qui ont laissé un petit nom dans l'histoire.
La musique pendant la guerre, numéro 4. 10 janvier 1916. Monsieur Charles Tenrock, critique musical à Comédia, nous adresse l'article suivant sur un projet de ligue pour la prépondérance de la musique française en France et sa propagation intensive à l'étranger. Le temps n'est plus où il était élégant de proclamer que l'art n'a pas de patrie, comme si l'art ne remplissait pas un rôle économique et social. Nos artistes, glorieux enfants de France, nous prouvent tous les jours que c'est le sang de la patrie qui circule dans leurs veines. C'est pourquoi tous nos artistes ont le droit, je dirais même le devoir, de se grouper comme les peintres et les industriels l'ont déjà fait. Ils ont le devoir impérieux de s'unir efficacement dans le but de lutter contre le retour des influences et aussi des erreurs dont ils ont subi les funestes conséquences, dans le but également de se compter afin de marquer les hésitants, les internationalistes impénitents, les naturalisés douteux, les esthètes embusqués, les utopistes asservis. En un mot, tous ces veules qui, fuyant la bataille, voudraient ensuite avoir la plus belle part du succès.
déjà. Monsieur Saint-Saëns avait jadis poussé le cri d'alarme. Déjà, la jeune école française, sous la conduite de Monsieur Debussy, s'était dégagée de l'étreinte néo-germanique pour s'élancer vers un nouvel idéal. Déjà, l'enseignement de Monsieur Dindy s'était efforcé vers le retour des traditions nationales. Déjà, messieurs Gabriel Fauré, Gustave Charpentier, Alfred Bruno avaient levé le drapeau des libertés latines. Aujourd'hui, l'heure va venir, elle est presque venue, de porter un coup décisif aux mercantis futurs du bluff et du snobisme austro-allemand. Il faut réagir. Un des moyens les plus actifs est la formation d'une ligue anti-allemande. Groupons-nous donc pour le triomphe de notre art national.
Donc Charles Tenrock, c'est un critique musical qui fait partie donc, du projet des festivals de musique française. C'est un proche de Francis Cazadesus. Et en mars 1916, il fonde ce qui s'appelle la Ligue nationale pour la défense de la musique française, sa prédominance en France, sa propagation à l'étranger. Donc c'est le titre complet. À premier abord, on pourrait avoir envie de rassembler ces deux projets, donc les projets des festivals de musique française et le projet de la Ligue. D'ailleurs, les deux projets partagent un certain nombre de leurs membres. Donc on retrouve Camille Saint-Saëns, Vincent Dindy, Francis Cazadesus, par exemple, parmi tant d'autres dans les deux entreprises. Les festivals et la Ligue partagent également le même organe de diffusion, donc qui est la revue la musique pendant la guerre. Et surtout, donc, les deux projets semblent tendre vers un même but, donc de défense de la musique française. Mais l'idéologie sous-jacente aux deux entreprises est vraiment très différente. Et donc, c'est la Ligue, fondée par Tenrock, a des ambitions nationalistes beaucoup plus combatives. Elle veut, par exemple, boycotter, même pour l'après-guerre, les compositeurs ennemis contemporains. Et donc, finalement, beaucoup de musiciens très patriotes et engagés dans la défense du pays refusent vraiment d'adhérer à la Ligue. Charles Quéclin, même Debussy, Cortot, pourtant chef de la propagande, Fauré ou encore Vidor. Et la Ligue est au final assez peu fédératrice. Chez les musiciens, contrairement au festival, elle ne reçoit pas non plus l'appui du gouvernement.
Le lancement de cette ligue se fait sur le mode sur un mode très offensif. Donc, y a un point de vue nationaliste très clair, avec un article qui stipule bien que les membres actifs doivent être français ou naturalisés français depuis au moins 5 ans. Ils ne doivent évidemment pas être d'origine austro-allemande. Et donc, on a un exclusivisme très fort comme ça. Et ce qui est intéressant par rapport à cette Ligue nationale pour la défense de la musique française, c'est la réponse de Ravel, une longue réponse que Ravel fait dans une lettre alors qu'il est au front.
Au comité de la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Zone des armées, 7 juin 1916. Messieurs, un repos forcé me permet enfin de répondre à l'envoi de la notice et des statuts de la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Excusez-moi, je vous prie, si je n'ai pu vous écrire plus tôt. Mais diverses mutations, mon service aventureux, ne m'ont guère laissé de loisirs jusqu'ici. Excusez-moi aussi de ne pouvoir adhérer à vos statuts. Bien entendu, je ne puis que louer votre idée fixe du triomphe de la patrie, qui me poursuit moi-même depuis le début des hostilités. En conséquence, j'approuve pleinement le besoin d'action d'où est née la Ligue nationale. Ce besoin d'action a été si vif chez moi qu'il m'a fait quitter la vie civile alors que rien ne m'y obligeait. Mais je ne crois pas que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Il m'importe peu que M. Schönberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne. il n'en est pas moins un musicien de haute valeur, dont les recherches pleines d'intérêt ont eu une influence heureuse sur certains compositeurs alliés. Bien plus, je suis ravi que messieurs Bartók, Kodály et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leurs œuvres avec tant de saveur. Vous voyez, messieurs, que sur bien des points, mon opinion est assez différente de la vôtre, pour ne pas me permettre l'honneur de figurer parmi vous. Veuillez croire, messieurs, à l'expression de mes sentiments distingués. Maurice Ravel.
Ravel a voulu vraiment participer à l'effort de guerre. Il a voulu combattre, il n'a pas pu combattre pour des raisons de constitution physique. Il a conduit à Verdun des véhicules militaires et c'était sa contribution à la guerre. Mais en même temps, avec ce patriotisme irréprochable, hein, Ravel a refusé de participer aux campagnes d'interdiction des musiques des empires centraux en écrivant des textes en disant « je comprends vos idées, mais moi je ne les partage pas ». Donc, on n'est pas condamné dans le contexte de guerre à pousser la guerre jusqu'à la détestation de la culture de l'ennemi. Exemple, Ravel, absent ici.
La posture de Ravel n'est pas rare. C'est la posture d'un certain nombre de compositeurs pendant la guerre, souvent les plus jeunes, qui ne sont pas moins patriotes que les compositeurs qui se trouvent sur le front domestique et qui ont une position plus d'union, plus nationaliste. Mais c'est un patriotisme qui emprunte une voie différente. Donc Ravel, il considère vraiment que faire triompher l'art, l'esprit français en musique, suppose d'entretenir la vivacité des avant-gardes nationales, donc de continuer les querelles, les débats esthétiques entre les créateurs, les écoles, les mouvements.
Et voici de Maurice Ravel la quatrième pièce du tombeau de Couperin dans sa version pour orchestre dédiée à la mémoire de Pierre et Pascal Godin.
Chez Ravel, on a aussi un hommage à la musique du XVIIIe siècle, par exemple, avec le tombeau de Couperin. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque mouvement est dédié à une personne morte au champ d'honneur. Et donc, c'est à la fois un hommage à ses amis morts pendant la guerre et aussi un hommage à toute la musique du XVIIIe siècle français.
« 24 juin 1916, à Jean Marnold, conducteur Ravel, 15e section du parc automobile, par BCM, Paris. Mon cher ami, donc je vois que nous sommes du même avis. Sérieusement, cette œuvre patriotique présente un danger non seulement pour notre bon sens, mais aussi pour notre liberté. Jugez-en par cette menace de Monsieur Tanrock, président, s'il vous plaît. » Je suis ravi d'apprendre à quel point vous appréciez la haute valeur du musicien Schoenberg, la saveur de Monsieur Bartók, Kodály et leurs disciples. La Ligue nationale sera là au moment opportun pour prévenir votre admiration contre un sacrifice éventuel, trop pénible pour le public, de votre propre musique. Bien que la lettre soit signée le président, je ne la considère pas comme officielle. Je ne crois pas qu'on puisse en livrer des extraits à la publicité. Maurice Ravel.
Ravel fait son devoir de patriote, comme tout le monde. Hein. Là, encore une fois, il est patriote, comme tout le monde. Simplement, il y a un moment donné où trop c'est trop, quoi. Et puis, bon, moi je crois aussi qu'entre Tenrock et Ravel, comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est le pouls et le génie, quoi. Donc, le petit mec qui râle et qui met la, qui met la bannière à la fenêtre en disant « Tous ceux qui ne sont pas comme il faut être, ceux-là, je les zigouille, ils sont suspects. Attends, enfin, voilà, bon, il y a cet effet de meute. Mais que je sache, la police ne s'est pas rendue à 5h du matin au domicile de Ravel pour l'embastiller, quoi. Je veux dire, on n'en est pas là. »
On peut noter l'absence donc, de certains compositeurs mobilisés sur les programmes des quatre festivals. Roger Ducasse, De Sévrac, Le Flemme, Florent Schmitt. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'ostracisme vis-à-vis de ces compositeurs. On parle par exemple souvent de l'exclusion de Ravel des festivals, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser son absence, parce que sa présence sur un des programmes des festivals ne répondrait pas au cahier des charges. Parce que finalement, Ravel continue d'être joué régulièrement depuis le début du conflit, notamment lors des concerts Colonne l'Amoureux. Et donc pour toutes ces raisons, il n'a d'ailleurs probablement pas envoyé de manuscrit au comité de sélection des œuvres des festivals.
Auguste Delacroix, Monsieur Marcel Labbé, Monsieur Paul Lamiro, Monsieur Maurice Dérèze, Monsieur Jean Richepin,
Monsieur Gigou, Monsieur Bachelet, Monsieur Paul Vidal, Monsieur Gann, Monsieur Destournel de Constant, Monsieur Valentien, Monsieur Camille Saint-Saëns,
Monsieur Georges Krieger, Monsieur Roger Penny, Monsieur Saint-Georges de Bouillier, Monsieur Gustave Charpentier, Monsieur Debussy, Monsieur Gabriel. Alors, on peut penser à Gabriel Pierné, qui est un compositeur et chef d'orchestre, et qui a composé une musique de scène pour une pièce. Il s'agit des cathédrales de Eugène Morand, créée en novembre 1915 au théâtre Sarah Bernhardt. C'est une pièce donc accompagnée de musique qui va en fait faire intervenir des personnages qui représentent les différentes cathédrales françaises. Et évidemment, c'est une pièce qui est née après le bombardement sur la cathédrale de Reims, qui a évidemment marqué tous les esprits, à tel point qu'on a même eu un moment l'idée de ne pas la restaurer pour montrer la preuve de l'ignominie des Allemands. Et cette pièce est donc jouée par Sarah Bernhardt elle-même, qui sur scène joue avec donc une jambe amputée, puisqu'elle était amputée depuis 1915. Et donc elle incarne aussi de ce point de vue le corps métaphorique de la France. Et elle est aussi liée aux soldats qui eux-mêmes se battent et donc sont agressés physiquement. Et elle joue avec 6 autres actrices, donc le rôle des cathédrales françaises. Alors on n'a pas retrouvé toute la musique de la pièce des cathédrales de Pierné, mais il y a un prélude très éloquent qui fait intervenir plus de 150 musiciens, un grand orchestre, et qui donc ouvre la pièce et dans laquelle on voit un soldat endormi, soldat qui rêve la victoire. Et donc, dans ce prélude, on a, dans le style vraiment du poème symphonique teinté de l'influence de César Franck, on a cette peinture musicale de ce rêve de victoire avec une lente ascension qui vient des graves de l'orchestre, avec des citations tronquées de la Marseillaise, mais qui sont quand même assez claires, un moment de victoire avec des rythmes pointés, des cuivres, des motifs triomphants, et puis une redescente lente qui marque la fin du rêve de ce soldat endormi.
Ce prélude des cathédrales de Pierné donc n'a pas été joué au premier festival de musique française de 1916 puisque Pierné était à l'arrière et que le but de ce festival était de jouer la musique des compositeurs tombés au front ou mobilisés.
on voit tout de suite sur l'affiche que ces musiciens sont beaucoup plus jeunes que ceux qui sont à l'arrière et qui s'occupent de sélectionner les compositeurs, qui s'occupent de diriger ces festivals de musique française. Et donc on voit que lors du premier festival, 8 compositeurs ont été joués. Donc c'est pas des compositeurs qui sont restés dans le répertoire, ou en tout cas c'est des figures assez peu connues aujourd'hui. On a par exemple Marcel Labbé, Paul Lamiro, Georges Krieger, Maurice Thérèse,
George Krieger,
Édouard Flament, Roger Penaud, Christian Riquet,
Marcel Labbé,
de la Croix.
Blessé, cité à l'ordre du jour, retourné au front. Édouard Flament, actuellement en convalescence. Auguste Delacroix, mobilisé en Champagne. Maurice De Ré, mobilisé à Salonique. Paul Lamiro, mobilisé à Verdun. Roger Penaud, mobilisé à Verdun. Et Christian Riquet, mobilisé au canonnier marin.
Mais est-ce que ces 8 compositeurs, par exemple, qui sont là, ils étaient joués avant-guerre? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement été plus joués pendant la guerre qu'avant 14?
Alors là, cela dépend vraiment des compositeurs. Certains, comme Édouard Flament, avaient déjà été joués au Concert Lamoureux. Un compositeur comme Marcel Labbé était déjà assez connu avant-guerre. Il avait été joué à la SN, au Concert Durand, au Concert Lamoureux. C'est la même chose pour Paul Lamiro, qui avait été joué une quinzaine de fois à Paris avant-guerre. Par contre, pour d'autres compositeurs, comme Roger Penaud, Christian Riquet, leur visibilité sur les scènes musicales est très 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 faible avant-guerre. Et d'ailleurs, lors de ce festival de musique française, les œuvres qui sont jouées de ces compositeurs le sont pour la première fois.
Et est-ce qu'elles seront rejouées après la guerre, ou est-ce que c'est des compositeurs qui vont retomber dans un oubli assez important?
Ce sont des compositeurs qui ne seront pas forcément rejoués après guerre. Après, à ce moment-là, tous les espoirs sont permis. Ce sont des jeunes compositeurs. Enfin, jeunes, il faut quand même préciser qu'aucun d'eux n'a moins de 30 ans. Donc ce sont des compositeurs jeunes en ce qui concerne la musique. Tous les espoirs sont permis, on ne peut pas savoir à ce moment-là s'ils ne seront pas des compositeurs reconnus dans quelques années. Pour certains, comme Paul Lamiro, mais qui était déjà quand même connu avant-guerre, ils seront rejoués quand même régulièrement après le conflit. Pour d'autres, comme Roger Penaud, ils vont davantage tomber dans l'oubli.
De ses œuvres jouées le 16 juin 1916 à la salle Gaveau, nous n'entendrons pas une note. Elle ne figure sur aucun disque. De ses 8 compositeurs, seuls 2 ont eu les honneurs d'un enregistrement, Paul Lamiro, le plus célèbre, et Georges Krieger, dont nous écoutons la toccata, jouée par l'organiste Philippe Brandeis, dans un enregistrement de 2014.
Là, on a affaire à des moments où les compositeurs sont des grandes figures autour desquelles on se réunit pour commémorer sans véritablement écouter leur musique. Oui, il y a dans les discours d'inauguration de ces festivals de musique française pendant la guerre une sorte de devoir moral qu'elles se réfèrent les politiques, disant ils sont en train de souffrir, certains sont blessés, d'autres sont mobilisés, et donc il faut absolument leur rendre l'hommage, non pas pour leur qualité musicale, mais pour leur qualité de patriotique.
Ce Ce que je trouve vraiment le plus touchant dans cette affiche, c'est les huit compositeurs. Ces compositeurs qui sont en uniforme, en soldats, dont certains, comme George Krieger d'ailleurs, ne reviendront pas des combats, qui finalement, par cette affiche, continuent d'exister comme à travers leur musique. Et donc, Paul Lamiro est particulièrement intéressant parce qu'il a écrit à sa femme après avoir été joué lors du premier festival de musique française, et qui lui explique, donc il est ravi, il a une bonne critique, comme on dit dans la presse musicale, mais qui explique à sa femme, de toute façon, vu la beauté du projet, le fait de faire jouer des compositeurs aux armées à l'arrière, et vu le contexte politique, on ne peut pas trouver les œuvres des compositeurs mobilisés jouer, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas décemment en faire une critique comme on en aurait pu en faire lors d'une première audition d'un jeune compositeur avant-guerre ou après-guerre.
Et voici, de Paul Ladmiro, la sonate pour clarinette et piano.
Voilà donc un extrait de la lettre de Paul Lamiro à sa femme Charlotte, juste après le premier festival de musique française. Je viens de recevoir les coupures de journaux concernant le chant funèbre de Myrdine. Je suis très content. L'article de Villermoz est excessif, mais bien aimable. D'ailleurs, on ne peut que trouver bien les œuvres de ceux qui sont aux tranchées. Je suis sûre qu'une œuvre de n'importe quel mobilisé figurant au programme, Villermoz l'aurait loué. Cependant, on voit qu'il m'en a mis une tartine spéciale et qu'il est très sincère dans son appréciation sur la couleur harmonique de mes élucubrations. Le premier festival est vraiment, ce qu'on peut dire, un succès en termes de nombre de public. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, la publicité de ce festival se retrouve, quasiment tous les journaux d'époque, que ce soit l'Auto, l'Excelsior, le Figaro, vraiment. Et après le festival, les comptes rendus de ce concert se trouvent aussi dans quasiment tous les périodiques, et donc pas seulement spécialisés, mais dans les périodiques généraux. Mais au fur et à mesure des festivals, en fait, ce qui était aussi un succès, parce qu'il s'agissait quand même de mettre en œuvre une véritable union sacrée à l'arrière, ce succès retombe un peu. Et Francis Casatu ne pourra pas mettre en œuvre plus de 4 festivals parce que il y a par exemple des centaines de donateurs pour organiser le premier, mais après le quatrième, il n'a plus les moyens en fait d'organiser donc un cinquième festival.
Alors l'immédiate après-guerre, bon d'abord il y a les musiques de deuil que l'on rejoue, on fait appel encore une fois à la tradition française. Alors, effectivement on rejoue Wagner, on rejoue Fauré, Pénélope est jouée très vite, donc la vie musicale reprend. Et en ce qui concerne les influences, alors là il va se passer pas mal de choses. Bon tout d'abord les jeunes musiciens et jeunes peintres regroupés à travers une association qui s'appelle Lyre et Palette, qui essaye de trouver un langage nouveau. Ça va devenir plus tard les six, le groupe des six, il y a une personnalité agissante au milieu de tout ça, une éponge poétique qui s'appelle Jean Cocteau, qui écrit en 18 « Le coq et l'arlequin ». « Le coq et l'arlequin » qui est une charge anti-debussiste. Bon, les six, c'est Darius Milhaud, c'est Honegger, c'est Poulain, que c'est Germaine Taillefer, Louis Duret et Jean Jauric, voilà, qui est le plus doué de la bande à l'époque. Il y aura Parade en 1917, il y a Satie. Satie est très, on n'a pas parlé de Satie qui n'est pas là-dedans, enfin lui doit faire partie des internationalistes, des douteux, des personnages incroyables. Bon, c'est léger, quoi, voilà. C'est avant tout, c'est un esprit léger, c'est un esprit français, pardon, qui est fondé sur l'absence totale d'esprit de sérieux. Pour toute cette bande, je crois qu'il y a trois choses importantes qui arrivent. C'est la musique des clowns, la musique des fêtes foraines, la musique des enfants et la musique des nègres. 1918, c'est clair, hein, c'est l'arrivée des orchestres l'arrivée des troupes américaines à Paris, ça c'est une autre histoire, mais c'est l'arrivée du jazz et d'un seul coup, c'est vraiment une musique qu'on n'écoute plus, c'est une formule du Coq et l'Arlequin, une musique qu'on n'écoute plus la tête entre les mains.
Merci à Charlotte Segond-Genovesi, Cécile Quenet, Didier Francfort et Philippe Diamplovitch. Signalons une collection d'une vingtaine de disques regroupant par thème des œuvres de compositeurs de tous les pays créés pendant la Première Guerre mondiale. Cette collection s'appelle « Les musiciens et la Grande Guerre » et est éditée par Hortus. Lecture, Anne de Biran, Daniel Koenigsberg et Olivier Martineau. Prise de son, Jean-Guilain Meige, Élise Leu, Myriam Guillot.
Mixage, Stéphane Desmonts.
16 juin 1916, premier festival de musique française, L'Union sacrée à l'affiche, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Véronique Samouilov.
Demain, nous poursuivons cette série consacrée à la musique et à la guerre en nous intéressant aux musiques antimilitaristes. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse, c'est @fabriquefc.